News sur RFI, place maintenant au journal d'Haïti et des Amériques et nous retrouvons Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à tous. Dans ce rendez-vous des Amériques, la situation au Nicaragua, toujours aussi alarmante, avec un bilan lourd, 139 morts depuis le début d'avril. On entendra le témoignage d'étudiantes nicaraguayennes de passage à Paris. Elles sont venues parler du climat de peur et de menaces dans leur pays. Le sommet Trump-Kim Jong-un à Singapour et la question des exilés nord-coréens à la une de la presse américaine. Le Washington Post se demande si ce soudain réchauffement va permettre aux 30 000 membres de la communauté nord-coréenne de Séoul de rentrer chez eux. Et puis la success story d'une jeune haïtienne au Canada, Yama Laurent, une jeune chanteuse haïtienne de 27 ans, vient en effet de remporter le concours de l'émission La Voix, suivi par près de 2 millions de téléspectateurs au Québec. Le Nicaragua tout d'abord et la répression qui se poursuit contre les manifestants anti-Ortega. Au moins 5 personnes ont été tuées au cours du week-end, dont l'un a été tué par balle par 2 hommes à moto. Le Centre nicaraguayen des droits de l'homme parle de 139 morts depuis le 18 avril dernier. Mais il y a aussi plus de 1300 blessés et une centaine de disparus. Le mouvement de contestation est emmené par les étudiants qui réclament le départ du président Ortega, l'ancien guérillero sandiniste au pouvoir. Marie Normand a rencontré 3 jeunes femmes engagées dans cette contestation. Elles font actuellement le tour de l'Europe pour sensibiliser le public à la situation au Nicaragua et elles ont elles-mêmes été menacées pendant leur voyage. La sociologue et activiste Yerling Aguilera est d'abord revenue sur les raisons de leur venue en Europe.
Nous sentions que l'information était très polarisée. Nous avons ressenti le besoin d'informer. L'autre objectif était de coordonner des efforts avec des organisations de défense des droits de l'homme. Nous essayons aussi de rencontrer, d'établir des liens avec des institutions ici en Europe, comme les ministères des Affaires étrangères et les parlements, pour qu'elles puissent visualiser la situation politique au Nicaragua.
Jessica Cisneros, vous êtes tout juste diplômée, vous vous qualifiez de militante. Vous dites avoir subi des pressions dans certaines des villes que vous avez traversées en Europe.
Oui, dans 2 villes. Ils ont commencé par des agressions verbales, puis ils ont commencé une campagne dans les médias où ils nous ont accusés de demander de l'argent pour acheter des armes et les envoyer au Nicaragua. Donc ce que nous pensons, c'est qu'ils essayent de fabriquer un délit pour qu'à notre retour au pays, ils utilisent je ne sais quelle procédure légale pour nous condamner pour le simple fait de dénoncer ce qui se passe dans notre pays.
Madeleine Caracas, vous êtes l'une des voix de ce mouvement étudiant. Vous expliquez que la peur s'est installée sur les campus. Est-ce que vous-même, vous avez dû prendre des précautions pour votre sécurité ?
J'ai été poursuivie, menacée, j'ai dû quitter mon domicile. Cela signifie être loin de ma famille depuis longtemps et ne pas pouvoir la voir. Cela veut dire passer des nuits d'angoisse lors desquelles j'ai été suivie par des camionnettes, par des motos. Et après ma participation au dialogue national comme membre du mouvement étudiant, nous sommes nombreux à avoir reçu des menaces directes. On a reçu des appels anonymes, des messages haineux. Un média officiel a diffusé des photos de moi et mes camarades comme si nous étions des criminels. Ils essayent de délégitimer ce que nous faisons et de nous mettre en danger.
Alors vous avez évoqué vos parents à l'instant, vous êtes issu d'une famille sandiniste. Comment vivent-ils votre engagement contre la politique de Daniel Ortega ?
Ma famille n'est pas spécialement sandiniste. Je crois que tous nos parents ont vécu la révolution. Et nous avons grandi avec cette lutte, avec cet idéal de chercher à avoir un pays meilleur. Et mes parents m'ont toujours soutenu parce qu'ils m'ont transmis les mêmes valeurs, appris à lutter pour ce qui est juste. Daniel Ortega n'a de sandiniste que le nom.
Ortega est sandiniste, pero solo de nombre.
Est-ce que vous croyez encore au dialogue aujourd'hui ?
Je crois que ce que les Nicaraguayens veulent, c'est une sortie pacifique et civile. Le dialogue promettait d'y répondre. Toutefois, lors des 3 premières sessions, nous avons démontré que nous étions dans une position de dialogue, mais pas le président Daniel Ortega. Parce qu'au milieu de ce dialogue, la répression continue. Toujours plus d'étudiants et de citoyens sont assassinés. Donc ce que nous attendons, c'est que la répression s'arrête. Et nous espérons qu'un dialogue pourra s'installer lors duquel nous évoquerons les thèmes qui constituent vraiment les attentes du peuple, la justice et la démocratisation. Ça ne veut pas dire que le départ de Daniel Ortega du pouvoir résoudra tous les problèmes. Nous savons que l'État lui-même est vicié et corrompu.
Cette lutte, elle ira jusqu'où ?
Je crois qu'à l'heure qu'il est, nous avons tous déjà mis notre vie en jeu. Notre vie est celle de nombreux Nicaraguayens qui sont dans la rue. Nous ne voulons pas le départ d'Ortega juste pour l'idée de le voir partir, mais pour survivre. Parce que nous savons que si Ortega reste au pouvoir, il y a une liste de personnes recherchées, il y a des poursuites criminelles engagées contre ceux qui ont manifesté, une opération de nettoyage qui a déjà commencé avec des manifestants détenus et assassinés. Ortega doit quitter le pays, non seulement parce qu'il n'est pas apte à gouverner, mais aussi parce qu'il a assassiné une centaine de personnes.
Un entretien réalisé par Lucille Guimbert et Marie Normand. La revue de presse des Amériques, à présent avec vous, Romain Lemaresquier, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, on en parlait à l'instant, le Nicaragua, où les manifestations quotidiennes continuent et le bilan continue de s'alourdir également.
Oui, un bilan qui s'établit désormais à 139 victimes depuis le début de cette crise, précise le quotidien La Prensa en une de son édition du jour. Un journal qui parle de cycle macabre avec des enterrements quotidiens et une répression qui ne faiblit pas, puisque toutes les victimes enregistrées ces derniers jours ont été tuées avec des armes à feu. Un pays littéralement paralysé par ces manifestations, titre en une le quotidien Hoy. Managua, la capitale, est en état de siège avec des barricades érigées un peu partout, des forces de l'ordre qui circulent dans des pick-up armes au poing visant à tout va, détaille le quotidien, qui fait également état d'une dégradation de la situation économique après 55 jours de manifestations. Des manifestants qui réclament toujours le départ du président Daniel Ortega, rappelle le quotidien Hoy.
Direction Singapour, Romain, où un sommet qualifié d'historique doit se tenir demain entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Oui, les deux dirigeants sont arrivés hier sur place et s'attellent désormais à préparer les derniers détails de cet événement si attendu, comme le précise le Washington Post ce matin. Deux dirigeants installés, ces cocasses, dans deux hôtels situés à seulement 10 minutes à pied l'un de l'autre, détaille le quotidien.
Et Romain, ce matin, Donald Trump a rencontré son homologue singapourien.
Oui, une rencontre dont aucun détail n'a filtré. Par contre, on sait que demain, mardi, Donald Trump et Kim Jong-un se verront en tête-à-tête avec leurs traducteurs respectifs après la photo d'inauguration du sommet, un rendez-vous qui pourrait durer 2 heures et au cours duquel Donald Trump veut tenter d'établir une relation personnelle avec Kim Jong-un, un entretien qui doit lui permettre de déterminer si la Corée du Nord veut véritablement entamer un processus de dénucléarisation.
Ce processus de dénucléarisation, c'est le but final affiché pour ce sommet, Romain, mais pour les exilés nord-coréens, on attend bien plus de ce rendez-vous.
Oui, c'est également à lire dans le Washington Post de ce lundi. Le quotidien est allé interroger certains des 30 000 membres de la communauté nord-coréenne de Séoul, des exilés qui se posent pour la première fois depuis leur départ la question d'un éventuel retour dans leur pays, ce qui ne signifie pas forcément un retour définitif. Une question qui semblait folle il y a encore peu, mais comme le détaille le quotidien, ce sommet ainsi que les gestes concédés ces derniers temps par Kim Jong-un donnent lieu à un certain espoir, et le simple fait que cet espoir existe désormais est un pas considérable selon cette communauté d'exilés nord-coréens.
Après Singapour, Romain, direction le Canada où la classe politique fait bloc derrière son Premier ministre Justin Trudeau suite aux attaques de Donald Trump qui l'a accusé de faible et malhonnête à la fin du sommet du G7.
Oui, les politiciens de tous les horizons ont dénoncé les attaques personnelles de la Maison-Blanche contre Justin Trudeau, selon la presse. Même les plus fervents opposants au Premier ministre canadien se sont engagés à appuyer le gouvernement fédéral dans la guerre commerciale face aux États-Unis, selon le quotidien. Pour l'éditorialiste du journal Le Devoir, l'expression « faible et malhonnête » utilisée par Donald Trump pour qualifier Justin Trudeau est drôlement bien choisi, puisque selon lui, il suffirait que le président américain tourne le miroir vers lui-même pour qu'elle soit juste.
Alors, tout autre sujet pour finir, Romain. Au Chili, les autorités s'inquiètent de l'arrivée de centaines de milliers de Vénézuéliens dans les mois à venir.
Oui, selon Tal Cual, un rapport de l'ancien ambassadeur chilien au Venezuela évoque la possibilité de l'arrivée de près de 500 000 Vénézuéliens prochainement. Un rapport qui se fonde sur un document du ministère de l'Intérieur vénézuélien qui fait état de 450 000 demandes d'extrait de casier judiciaire, un document exigé par les services d'immigration chiliens pour entrer dans le pays. Selon Tal Cual, depuis la tenue des élections le 20 mai dernier, il y a 3 fois plus de demandes de visa effectuées à l'ambassade chilienne à Caracas. Une situation qui inquiète fortement le gouvernement conservateur de Sebastián Piñera, qui veut au contraire réguler et contrôler ce flux migratoire. Des mesures devraient être d'ailleurs annoncées prochainement, selon le quotidien La Tercera.
Merci beaucoup Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va parler à présent de Yama Laurent, qui est une jeune haïtienne arrivée seulement depuis un an et demi au Québec. Et elle est devenue une vedette en l'espace de seulement quelques semaines. La jeune femme de 27 ans vient en effet de remporter le concours de l'émission La Voix, suivi par près de 2 millions de téléspectateurs québécois. Elle prépare maintenant un album sous la direction des producteurs de l'émission. Pascal Guéricola l'a rencontrée à Montréal.
Jusqu'au bout, pour qu'il reste un peu de nous.
Yama a eu droit à un cadeau de taille le jour de la grande finale de La Voix qui décidait du sort du vainqueur.
Pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir.
Son idole, Garou, celui dont elle écoutait les cassettes dans son lit de Léogarne en Haïti les jours de grande tristesse, lui a écrit une chanson sur mesure. Dès le début du concours, la chanteuse, marquée par la mort lors du tremblement de terre des deux jeunes sœurs qu'elle avait élevées, s'est distinguée des autres candidats. Pas à pas, la communauté haïtienne a suivi sa progression, comme l'explique David Mézi, un agent et producteur de spectacles.
Toute cette communauté aujourd'hui, je pense, est très très fière de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle a réussi. C'est énorme, c'est la première fois qu'une gagnante de La Voix gagne avec un écart aussi large. C'est la première fois qu'une gagnante est comme annoncée à l'avance. Même les journaux disaient, sauf une prestation catastrophique, Yama va remporter. Donc pour moi, c'est vraiment un exploit. C'est une fierté aussi que ça soit une Noire qui remporte ce gros concours ici. Je pense que c'est une bonne chose.
David Mézi a accueilli Yama à son arrivée au Québec en 2016, alors que déjà elle participait à des concours de chant. Dès ses premières apparitions, le producteur a constaté l'effet incroyable que sa voix profonde a exercé sur le public. Un public qui a découvert lors de l'émission de télé-réalité que la chanteuse avait eu une enfance meurtrie, privée de sa mère, qu'elle n'a retrouvée qu'après le tremblement de terre. De son côté, Yama vit avec un peu de difficulté cette notoriété si soudaine.
Ça fait pas longtemps que je suis arrivée, tout ça m'est tombé dessus comme ça. Mais je pensais pas que tout ça allait arriver à ce niveau-là dans si peu de temps. C'est vraiment beaucoup de pression. Et dans la rue aussi, ça me prend plus de temps maintenant pour écouter les gens. Les madames m'arrêtent dans des bus, dans des métros. Je peux même pas marcher toute seule. Oh mais non, c'est... Viens me voir. Peux-tu toucher ma fille, Yama, s'il te plaît? Yama, peux-tu... J'arrive pas à croire, j'arrive pas à comprendre le pourquoi que ces gens manifestent soit leur joie ou leur peine ou quoi que ce soit comme ça.
Sous nos pieds, laissons-les
Un mois après sa victoire, Yama commence à réfléchir au contenu de l'album que les producteurs de l'émission La Voix proposent à chaque gagnant de ce concours. Tout va décidément très vite pour celle qui a commencé à chanter à la demande des étudiants en République dominicaine où elle étudiait en médecine. Au fait, a-t-elle appris la musique?
Mais non, jamais. Je ne sais même pas comment passer une note sur un piano. Je ne sais même pas ce que c'est une note. Ce qu'il dit, j'écoute. Même quand j'écris, le son rentre tout seul. Peu importe la mélodie que je veux poser sur la chanson, ça vient de nulle part. Puis je chante. C'est comme ça.
Éprise de jazz, de soul, de rhythm and blues, Yama fait confiance à la vie pour la suite des choses. Pascal Guéricola, Montréal, RFI.
I go to the movie. Somebody keep telling me, don't hang around.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal de la première, présenté par Edwige Saint-Thomas. Bonjour Edwige.
Bonjour, bonjour à tous.
Et à la une aujourd'hui, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, est en visite aux Antilles. Les populations de Guadeloupe et de Martinique attendent des réponses de sa part pour en finir avec les algues sargasses.
Nicolas Hulot est arrivé, oui, hier en Guadeloupe, accompagné d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Première étape de cette visite. Dès leur descente d'avion hier, ils se sont rendus dans la commune de Petit-Bourg, très fortement impactée par les échouages de ces algues brunes, avec leur lot de désagréments, notamment le dégagement d'une odeur pestilentielle. Pour en venir à bout, il faudra un travail collectif, selon Nicolas Hulot. Il est au micro Guadeloupe la première d'Olivier Lancien.
Il faut qu'on passe maintenant dans une relation de confiance et de co-construction. C'est un phénomène qui dépasse tout le monde, qui est appelé à se répéter, qui affecte une petite partie du littoral, une petite partie de la population, mais ceux qui sont affectés, ils en subissent des conséquences optimales. Ce n'est pas la hauteur simplement des collectivités, ce n'est pas simplement la hauteur des responsabilités de la région, du département, et pas simplement la hauteur de l'État. Chacun doit apporter sa part et sa contribution. Nous allons, nous, là, pour ce qui concerne l'État, annoncer un certain nombre de mesures qui vont venir en renfort. D'abord, mesures d'urgence pour faire face à la situation exceptionnelle cette année. Puis une stratégie pour bâtir un plan, comme il existe le plan Colmar, pour que les collectivités, la région, l'État en soient pas pris de court. Donc qu'on puisse anticiper sur les événements. L'objectif que l'on s'est fixé, c'est que pour les zones habitées, tout échouage soit traité dans les 48 heures.
Nicolas Hulot détaillera les autres mesures ce soir avant de prendre la direction de la Martinique où il sera une nouvelle fois question des algues sargasses. Une visite qui pourrait être quelque peu perturbée. Une grande mobilisation est prévue dès aujourd'hui à l'appel du collectif Choum Douvan Douvan. Elle devrait durer 3 jours. Plusieurs syndicats et élus ont déjà apporté leur soutien au mouvement qui vise en fait à dénoncer la situation catastrophique du centre hospitalier universitaire de la Martinique. Les débrayages et rencontres avec le ministère de la Santé n'ont pas suffi à calmer la gronde. Lauriane Virasami.
Ça va faire du bruit, beaucoup de bruit ce lundi matin. C'est en tout cas la promesse de tous les acteurs mobilisés sur ce dossier. Le bruit des sirènes qui hurlent dans toutes les communes de la Martinique dès 8h. Le bruit des klaxons des voitures sur les routes, toujours à partir de 8h, pendant un quart d'heure. Des véhicules qui devront arborer un fanion ou un ruban rouge. Enfin, des brayages de 15 minutes pour ceux qui sont au travail. Autant de signes de soutien au mouvement qui continuera ce mardi, jour de grève générale et surtout jour de cette manifestation dans les rues de Fort-de-France à partir de 9h depuis la maison des syndicats vers la préfecture. Mardi, où les médecins libéraux n'ouvriront pas leur cabinet. Enfin, mercredi, journée ville morte prévue dans toute la Martinique.
Des explications signées Lauriane Virasami de Martinique. La première, c'est la fin de cette édition. Excellente journée.
Merci beaucoup Edwige Saint-Thomas pour ce journal La Première Caraïbe. Et on termine en musique à présent avec Touré Kounda et Lambigolo.
Safarala, kanjuju balabaja, leuto leuto la lenga dan banyu danla, berere nu nyambila, aida mafinko duliaka, eh. Chakia khulda Fode du suba falay balde dudu bakasa Duba le fralei dono nanje dono lenda plen Lamba day bole nini warule mitakane Danu buseta wo chilamba bezun adala Sereri wolo fijola isosei Ano weka tilambaye Uwole maha Mbae majaga.
C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Benita, la réalisation. On se retrouve demain, même heure, midi 10, temps universel. En attendant, très très bonne journée à vous.